Oh, Halleluja. Quelle grâce, quel privilège pour nous d'invoquer ce nom, d'avoir reçu la révélation de ce nom, le nom qui fait trembler l'enfer, le nom qui est lumière, puissance, sagesse et gloire pour nous. Qu'est-ce que ça fait du bien, Seigneur, de demeurer en ta présence? Quel plaisir pour nous, Seigneur, d'être là devant ta face et de laisser nos âmes se pencher devant toi. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tout ce que nous sommes, Seigneur, et tout ce que nous avons, si tant est que nous ayons quelque chose, le produit de ta grâce envers nous. Merci d'être toujours là pour nous. Seigneur, de continuer à combattre pour nous. Merci, Seigneur, de diriger nos pas sur les voies que tu as préparées avant même que nous venions, Seigneur, au monde. Nous voulons demeurer en toi, nous voulons rester attachés à toi. Voulons que par ton esprit tu nous aides, Seigneur, à aller de gloire en gloire, que par ton esprit tu nous donnes de marcher selon ta volonté, car il n'y a pas d'autre moyen, Seigneur, de ne pas accomplir les œuvres de la chair, si ce n'est de marcher par ton esprit, de marcher selon ton esprit. Merci pour tout. Nous voulons maintenant te confier ces moments et te demander, Seigneur, de nous faire du bien, par ta parole, de rafraîchir tout notre être, Seigneur, avec ta pensée. Parle-nous, fais-nous du bien, visite-nous au travers de ta parole. Seigneur, donne à ton serviteur de proclamer ta parole au Dieu de manière à ce que ton peuple puisse être béni. Oui, parle-nous, arrose-nous avec ta pensée au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous allons acclamer le nom du Seigneur, si vous voulez bien. Gloire à Dieu. Nous allons terminer une fois pour toutes donc avec notre thème, à savoir l'importance de l'unité spirituelle. Aujourd'hui, je vais simplement revenir sur l'image de ces chérubins et puis ensuite aller dans le psaume 133. Et enfin, après ce bref résumé, nous passerons du temps dans la prière, car je suis convaincu que le Seigneur voudrait faire quelque chose dans la vie de certains d'entre nous, si pas dans la vie de nous tous qui sommes là ce matin, mais également dans la vie de tous ceux qui sont en communion avec nous que ce soit la télé, que ce soit la radio ou même les réseaux sociaux. Nous allons lire très rapidement Exode 25. Nous allons commencer la lecture au verset 10, hein, contrairement à ce que il a été question au départ. Nous commençons la lecture au verset 10 d'Exode 25 et puis ensuite nous lirons le psaume 133. Exode 25 à partir du verset 10. Voilà, ils feront une arche en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur et tu feras une bordure d'or tout autour. Tu fonderas pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras donc des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront pas retirées. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or aux 2 extrémités du propitiatoire. Tu le feras d'or battu, un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins d'une seule pièce avec les deux extrémités du propitiatoire. Le verset 20, les chérubins étendront leurs ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire par-dessus l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai donc les deux tables de la loi. Je te rencontrerai, verset 22, je te rencontrerai du haut du propitiatoire entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te parlerai afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites, le verset 40. Regarde, puis exécute d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Et gloire au Seigneur. Donc Moïse a reçu une vision des choses célestes et le Seigneur lui demande eh bien de construire le tabernacle selon le modèle qu'il lui avait révélé, le modèle qu'il avait vu, selon les réalités qu'il avait vu ou qui lui avait été donné de voir là sur la montagne de la révélation. Et le psaume 133, très rapidement. Psaume de David, voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble ou de demeurer unis ensemble. C'est comme l'huile, la meilleure, qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité, ou littéralement, cela que Yahweh, qu'Adonai, que le Seigneur, que l'Éternel ordonne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alléluia. Lorsque toutes les conditions sont remplies, alors le Seigneur ordonne. Il ordonne la bénédiction. Il ordonne à la vie de descendre parmi son peuple. Il ordonne à sa grâce de se manifester puissamment. Et gloire au Seigneur. Pour autant que ce peuple demeure uni. Encore une fois, mes amis, je voudrais revenir très rapidement sur la nécessité, sur l'importance de l'unité spirituelle parmi les enfants de Dieu. Nous l'avons vu à plus d'une fois, puisqu'aujourd'hui, c'est le septième dimanche que nous parlons de cette réalité qui est donc conforme à la volonté de Dieu pour son peuple. Que ce soit pour le peuple de l'ancienne alliance, à savoir Israël, que ce soit pour le peuple de la nouvelle alliance, à savoir nous qui sommes en Jésus-Christ, eh bien sa volonté reste la même, que nous soyons unis, que nous demeurions unis. Alléluia. L'unité spirituelle est importante. L'unité spirituelle est conforme à la volonté de Dieu. Vous comprenez pourquoi le diable la combat. Vous comprenez pourquoi l'unité est dans le collimateur des puissances des ténèbres. Elle cherche par tous les moyens à dresser les chrétiens les uns contre les autres. Elle cherche par tous les moyens à diviser les assemblées. Et malheureusement, il arrive que le diable atteigne ses objectifs funestes et macabres, c'est-à-dire de diviser, c'est-à-dire de nuire à la santé spirituelle du corps du Christ. L'Église est un corps, et par conséquent, ce corps a besoin de vitalité et d'humilité spirituelle et morale pour pouvoir résister à toutes sortes d'assauts, à toutes sortes de virus et des bactéries spirituelles qui sévissent dans notre monde à cause de la présence du diable. Alléluia. Et nous avons vu, mes amis, comment, déjà à l'époque des apôtres, à l'époque de l'Église primitive, de cette Église dont il est question dans le Nouveau Testament, comment à chaque fois qu'il y a eu des moments de crise, puisque des crises, eh bien cette Église en a rencontré, comment les apôtres et les autres bien-aimés de cette Église-là, comment ils ont toujours privilégié l'unité dans la résolution de ces moments de crise. Alléluia. Nous avons vu Les deux moments importants de crise que l'Église de Jésus a connus. Et nous avons vu aussi comment les apôtres n'ont pas voulu se laisser distraire et comment ils ont pris des résolutions, ils ont décidé d'affronter ou d'approcher cette crise dans l'esprit de l'unité spirituelle. Il y a eu des murmures au sein de l'Église, il y a eu des tensions dans l'Église de Jérusalem où il y avait, mes amis, des apôtres, les uns murmuraient contre les autres. Les hellénistes trouvaient que leurs veuves, ceux qui parlaient grec, les juifs qui parlaient grec, leurs veuves n'étaient pas mieux considérées, n'étaient pas bien servies lors de la distribution de nourriture aux veuves. Ils ont constaté, ils ont observé que les veuves des Hébreux étaient privilégiées, étaient favorisées. Et cette situation entraînait des problèmes, des tensions, des murmures. Mais les apôtres, avec la sagesse qui était la leur, conduits par le Saint-Esprit, ont remis les pendules à l'heure. Ils ont d'abord déterminé, ils ont dit à l'Église, nous ne pouvons pas délaisser notre première vocation, notre apostolat pour aller servir aux tables. Nous allons continuer à assumer notre apostolat qui repose sur le service de la parole, de l'enseignement et sur la prière. Et puis, quant à vous, vous Église, aussi bien helléniste que hébreux, choisissez cet homme rempli de foi, de sagesse, cet homme ayant un bon témoignage, eh bien ces hommes-là, nous les chargerons, nous leur confierons cette tâche de superviser la distribution de repas, de nourriture aux veuves. C'est ainsi que pour la toute première fois, eh bien l'Église s'est organisée en confiant certaines responsabilités aux diacres. Cette organisation a été rendue possible par une crise. Lorsqu'une crise est bien gérée, non seulement dans l'Église, même au sein du couple, eh bien, le couple, le deux, l'homme et la femme, finissent toujours par s'aimer davantage. Alléluia. Lorsque la crise est bien gérée au niveau de l'Église, eh bien, l'Église en sort toujours vainqueur. Et la fois dernière, et c'est d'ailleurs la lecture que nous venons de faire aujourd'hui, et je voudrais revenir là-dessus très rapidement, sur l'arche. L'arche, nous l'avons vu. J'avais demandé à ceux qu'on projette une image de l'arche, ces coffres, cette caisse, dont les dimensions ont été soulignées, données par le Seigneur lui-même. Ce coffre qui était fait donc de bois d'acacien, couvert, voilà, donc commence à se présenter, couvert d'or pur. Et à l'intérieur de cette caisse, c'est ça d'ailleurs le sens littéral, de ce coffre, eh bien, ou de l'arche, il y avait les deux tables de la loi. Les deux tables de la loi exprimant la volonté de Dieu pour son peuple. Alléluia. Ce sont les deux tables écrites du doigt de Dieu, par le Seigneur lui-même, là sur la montagne, des tables de la loi qu'il avait remises à Moïse. Et ce coffre, cette caisse, cette arche, devait être couverte par ce qu'on appelle, ou la Bible appelle le propitiatoire. Parce que sur ce couvercle-là, devait avoir lieu, mes amis, un rite de purification, un rite, si vous voulez, d'expiation, c'est-à-dire le souverain sacrificateur entrait dans le Saint des Saints une fois l'an, à l'occasion de ce jour qu'on appelait le Yom Kippour, ou le jour de l'expiation, il entrait avec du sang et il versait 7 gouttes de sang, là, entre les deux chérubins, sur le propitiatoire. Donc c'était un lieu qui recevait régulièrement le sang. Et la Bible dira plus tard, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alléluia. Vous comprenez pourquoi ça s'appelait propitiatoire, littéralement couverture ou couvercle. Quelque chose qui couvrait, et plus tard quelque chose qui ôtait le péché. Accordant ainsi au coupable le pardon dont il avait besoin. Et toute notre attention a été donc attirée sur ce couvercle, sur ce propitiatoire, avec les deux chérubins, l'une à l'extrémité, à une extrémité, et l'autre à l'autre extrémité. Leurs ailes sont déployées vers le haut, recouvrant ainsi le propitiatoire, comme vous pouvez vous en rendre compte. Voyez, et plus tard, à chaque fois que le peuple d'Israël parlera de l'arche, eh bien, le peuple parlera de l'arche de l'Alliance, où Dieu siège au milieu des chérubins. Alléluia. Donc, trône invisible, plutôt, expression du trône invisible du Dieu de la Bible, support de sa majesté, lieu où Dieu devait rencontrer son peuple, à commencer par Moïse. Il lui dit, c'est là où le propitiatoire, là où le sang aura coulé, entre les deux chérubins. Ils se regardent face à face, nous l'avons vu, voyez-vous. Et la leçon que nous avons tirée, mes amis, c'est que, d'abord, c'est la posture, la position des chérubins. Ils sont dans une position d'adoration, ils sont dans une position de louange. Leur visage, leur face est tournée vers le propitiatoire. Et puis ensuite, les deux se font face. Les deux se font face. Je vais revenir là-dessus. Et nous en avons parlé. Et je vais vous donner la traduction littérale en hébreu de ce verset 20 d'Exode 25. Mais avant cela, je vous rappelle, et nous l'avons lu, le Seigneur a dit à Moïse, « Fais tout d'après le modèle qui t'a été présenté. » Donc, Moïse a reçu une vision. Moïse a vu des réalités vivantes. Moïse a eu la grâce de contempler des choses qui sont au-delà de la dimension, de notre dimension espace-temps. Il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Eh bien, c'est ce que Jean, l'apôtre, verra plus tard, alors qu'il était forcé à l'exil sur l'île de Patmos. La Bible nous dit qu'à un certain moment, Jean fut ravi en esprit. Et là, une porte s'ouvre au ciel. Il est ravi en esprit. Et que voit-il? Il voit un trône et quelqu'un assis sur ce trône. Et tout autour du trône, il voit d'autres trônes sur lesquels étaient assis 24 vieillards ou anciens avec des couronnes d'or. Et là aussi, autour du trône, il voit des créatures célestes, ce qu'il appelle les quatre êtres vivants, avec six ailes, qui se prosternaient devant Dieu, proclamant sa sainteté, saint, saint, saint. Et le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Et pendant qu'il regardait, oh alléluia, pendant qu'il regardait, ce sont des choses vivantes. C'est pour que vous compreniez ce que Dieu a dit à Moïse, fais d'après ce qui t'a été révélé à la montagne. Et pendant qu'il regardait, l'apôtre Jean voit au milieu du trône un agneau qui semblait immolé. Et pendant qu'il regardait, il voit les 24 anciens, les quatre êtres vivants, venir se prosterner devant l'agneau avec des coupes remplies d'or qui sont donc de parfums, etc. Et puis là, il entend du trône, il entend autour du trône. Non seulement il entend, mais il voit. Que voit-il? Il dit, je regardais, versets 11 et 12 d'Apocalypse 5, je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, alléluia, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était de myriades, des myriades, des milliers, des milliers, oh alléluia. Ils disaient d'une voix forte, et nous allons proclamer ensemble avec eux, Parce que même maintenant, là-haut, devant le trône de l'agneau, les anges, les chérubins, les séraphins, les archanges se prosternent et proclament à chaque instant, nous allons lire ensemble. Vous remettez le texte, s'il vous plaît. Il disait d'une voix forte, et tous ensemble, nous allons nous joindre à cette proclamation angélique, à cette proclamation faite, mes amis, par des êtres célestes, des êtres glorieux, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. Mes amis, le trône, vous savez quand nous parlons du trône, quelle image traverse notre esprit? Un trône, c'est quoi? C'est un siège élevé sur lequel un souverain s'assied pour exercer ses fonctions, et ce de manière solennelle, n'est-ce pas? Nous avons l'image d'un siège mobile, immobile plutôt, mais ici, il n'y a rien de tout. Tout est majestueux. Tout est glorieux. Mes amis, plus avant ça, le psalmiste avait dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Cette louange, cette adoration, cette célébration, par des myriades et des myriades d'anges, par des myriades et des myriades de séraphins, de chérubins et d'autres créatures célestes, d'autres gloires célestes, mes amis, eh bien, encense le trône, jour et nuit, à chaque instant, et se prosterne. Oh, hallelujah. Et donc, voilà ce que j'ai en vue. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est le même Dieu qui, avant de se révéler à Jean sur l'île de Patmos, s'était déjà révélé à Moïse. Là, sur la montagne, il lui dit, « Vois, regarde ce que tu as. Regarde ce que tu vois. » Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu les chérubins. Il a vu tout cela. Et il dit, « Reproduis comme tu l'as vu. » Mais il ne pouvait pas reproduire les myriades et les myriades d'anges. Même la terre n'aurait pas pu contenir, mes amis, ces milliers et des milliers, ces myriades et des myriades d'anges. Le Seigneur lui dit simplement, fais deux chérubins qui se regardent face à face. Alléluia. Là, entre le chérubin, le sang va couler et Jean verra l'agneau immolé. Oh, alléluia. Moïse, on le voit, il dit, c'est là que on va verser le sang. Et c'est là que je te rencontrerai. C'est là que je vous rencontrerai. Le verset 20, très rapidement. Il nous est dit au verset 20 du chapitre 25 du livre d'Exode 25, les chérubins étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes le propitiatoire ou l'expiatoire, c'est la même chose. Et ce faisant, face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Deux vérités importantes. La première, il faut laisser le texte. La première, c'est que ils sont dans une posture. Ils sont dans une position de louange et d'adoration. Alléluia. Un. Et là, ça nous permet de comprendre ce que le psalmiste a dit. Le Dieu d'Israël règne, siège, trône parmi les louanges de son peuple. Et puis ensuite, il nous a dit, se faisant face l'un à... Voilà ce que l'hébreu dit, littéralement. Je l'ai traduit ici. Couvrant de leurs ailes le propitiatoire et... leur face, littéralement, chacune vers son frère. Le mot frère apparaît. Leur face ou leur visage, chacun vers son frère. Alléluia. Le mot utilisé ici, C'est le mot frère en hébreu. Donc là où nous nous disons l'un à l'autre, c'est l'un à son frère. Oh, alléluia. Il y a là une notion importante, mes amis. Ce n'est pas simplement deux chérubins qui sont là, qui passent du temps à jouer aux dames, je ne sais quoi. Ils se font face l'un à l'autre. L'un envers son frère. Et David nous apportera encore l'éclairage sur ce mot. Je n'ai pas donné, malheureusement, la référence, c'est dans 2 Samuel, chapitre 1er, quand David parle de la mort de Jonathan. Dans son élégie, ou dans ses poèmes lyriques, dans sa complainte, versets 26 à 27, écoutez ce que David dit quand il apprend la mort de Jonathan. Jonathan, avec qui il avait une amitié profonde, une amitié saine, une amitié pure, qui était plus qu'un ami. Au verset 26, écoutez ce que David dit. « Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher, ton amour ou ton amitié était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. » Tu m'étais, il l'appelle comment? Frère. C'est le même mot. Et quand on étudie l'histoire de David et Jonathan, on se rend compte qu'il y avait entre eux une alliance, n'est-ce pas? Qu'il y avait entre eux une amitié saine, une amitié profonde, un vrai amour fraternel. Au point où quand il apprend la mort, eh bien David pleure. David, mes amis, eh bien laisse son cœur pleurer. Et là, il proclame, Jonathan, je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Eh bien, c'est le même mot qu'on retrouve dans Exode 20, 25, verset 20. Leur visage, l'un vers son frère. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Et c'est le même mot, et ça, je terminerai puisque nous devons prier. C'est le même mot que nous allons retrouver dans Jérémie 36, versets 22 à 23. C'est l'histoire du roi Jéhoiakim, et à l'époque du prophète Ésaïe. Il nous est dit que le roi était assis dans le palais d'hiver. Nous sommes en hiver, c'était au 9e mois, et un brasero brûlait devant lui. L'histoire c'est quoi? C'est que vous savez que Jérémie a été persécuté. Il avait reçu des oracles de la part du Seigneur, et il avait écrit ces oracles, il avait remis ça à son secrétaire Baruch, il avait dit, voilà, il faut amener ça au roi. Je vous passe l'histoire, vous pouvez lire toute l'histoire là-dessus. Et quand le rouleau arrive chez ce roi, Jéhoiakim, eh bien lui, que va-t-il faire? Il était dans son palais d'hiver, puisqu'il faisait très très froid, il avait devant lui un brasero. Vous voyez donc, les brasseries servaient à l'époque à chauffer les intérieurs des maisons. Au départ, c'était des ustensiles en terre cuite et plus tard en cuivre. On mettait du charbon à l'intérieur ou un peu de bois, on mettait le feu et ainsi on pouvait chauffer en hiver l'intérieur de la maison. Et il était donc là, en train de se chauffer quand on lui apporte la parole de Dieu. Et malheureusement, cet homme va prendre le rouleau de la parole de Dieu pour le jeter dans le brasero qui brûlait. Et ainsi, il va brûler, le verset 23. À mesure que Yehudi, quelqu'un de la cour royale, lisait 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec le rasoir du secrétaire et les jetait dans le feu du brasero jusqu'à ce que tout le rouleau soit consumé. Quelle malédiction, mes amis. Alors, pourquoi je vous fais lire cela? Eh bien, le mot traduit par brasero est le même mot que nous trouvons dans Exode 25, verset 20, le mot frère. Mais ici, il est au féminin. Et il veut dire brasero. Un ustensile où on met de charbon, pas un seul charbon, On met plusieurs charbons pour pouvoir donner du feu, pour pouvoir donner de la chaleur. Évidemment, avec ce roi, eh bien, il va mal utiliser cela pour détruire la parole de Dieu. Mes amis, le chérubin, la relation entre le chérubin est placée sur le signe de la fraternité, l'un envers son frère. Oh, alléluia. Nous sommes donc appelés à être le brasereau de Dieu. Nous sommes appelés à être du bois dans ce brasereau divin, afin que nous puissions contribuer à ce que, qu'il y ait du feu, qu'il y ait de la chaleur, qu'il y ait de la lumière. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, c'est vous qui êtes la lumière du monde, alléluia. Nous devons brûler du feu de la Pentecôte. Nous devons briller de la lumière du Christ. À la Pentecôte, ils se sont retrouvés en vain. Ils ont prié, ils ont supplié le Seigneur. Quelque part l'unité, la vraie unité, eh bien, est née, a éclos. Et résultat, quand le Saint-Esprit descend, il n'est pas descendu sur un seul apôtre. Mais la Bible nous dit qu'il est descendu sur tous ceux qui étaient dans la chambre haute, parce qu'il y eut des langues de feu qui se posèrent sur toute personne qui était dans cette chambre haute. Mes amis, nous sommes appelés à être de frères et de sœurs, à nous tenir les uns en face des autres, sans qu'il y ait quelque chose dans nos cœurs qui nous reproche, sans qu'il y ait quoi que ce soit dans nos cœurs qui nous empêche de nous tenir véritablement en présence de l'autre. Sans l'unité, il est impossible que Dieu se manifeste puissamment parmi son peuple, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est bon, qu'il est vital pour des frères, et j'ajouterai, et des sœurs, de demeurer unis ensemble. C'est là que le Seigneur ordonne la bénédiction. C'est là qu'il ordonne la vie. Mes amis, Dieu n'a pas changé. Pour les amateurs du foot, il y en a qui ont même séché la réunion de vendredi pour aller au stade ou suivre le foot à la télé. Nous étions là. Hein. Nous étions ici, hein, pas là-bas. Nous étions ici. Et vous avez remarqué que dans une équipe de foot, dès le départ, on apprend aux joueurs à jouer pour l'équipe. Voilà. Vous pouvez avoir un talent extraordinaire, mais ce talent, lui seul, ne peut pas amener la victoire. La victoire est le résultat de la coopération, de la solidarité entre les différents joueurs. Alléluia. Chacun apporte son talent. Chacun apporte ses compétences. On les additionne, on les met ensemble. Chacun mouille son maillot. Chacun se sacrifie, non pas pour lui-même, mais pour l'équipe. C'est seulement à ce prix-là que l'équipe remportera la victoire. Et dans l'Église, c'est la même chose, mes amis. Nous ne devons pas rouler pour nous-mêmes, mais nous devons rouler pour le corps du Christ. C'est là que le Seigneur envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie la vie. Et quand la vie de l'Esprit est envoyée parmi le peuple de Dieu, elle se manifeste par le succès, par la réussite, par la victoire, par la guérison, par la prospérité, par l'ouverture de toutes sortes de portes qui sont restées verrouillées, qui sont restées fermées. Oui, nous avons besoin de cette victoire. Oui, la victoire du Christ. D'abord, en tant que corps. Et puis, en tant qu'individu. Alors, à l'instar de ce chérubin, dans cette posture d'adoration, pouvons-nous nous mettre l'un en face de l'autre? Nous, non seulement nous qui sommes ici ce matin, mais également vous qui nous suivez sur Biwan, sur Sangomalam ou sur toute autre chaîne de télévision, vous qui nous suivez sur la radio Parole Éternelle, pouvez-vous vous tenir l'un en face de l'autre et dire, Seigneur, nous allons t'adorer ensemble, d'un même cœur, d'une même âme, dans un même esprit, dans la même pensée. Pouvons-nous le faire? Ou alors à nous-mêmes, le Saint-Esprit nous interpelle. À nous-mêmes, le Saint-Esprit nous dit, non, il y a encore un manque de pardon dans ton cœur. Il y a encore des choses que tu murmures contre ton frère et ta sœur, contre ton mari ou ton épouse, contre ta famille. Si tel est le cas, profitons de l'occasion aujourd'hui pour demander pardon, car Dieu veut nous rencontrer là. Chaque année, le souverain sacrificateur allait verser du sang sur le propitiatoire entre les chérubins, mais nous, peuple de la Nouvelle Alliance, le sang a été versé une fois pour toutes. Alléluia. Donc pour nous, cette condition est déjà remplie. On n'a pas besoin d'aller chercher du sang. Christ a tout accompli. Maintenant, quelle est notre responsabilité? Eh bien, c'est de nous tenir comme le chérubin, l'un envers son frère, l'un envers sa sœur. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alors je vais vous demander de vous mettre debout. Dans un premier temps, je voudrais que chacun sache que s'il est à Christ, s'il est disciple de Jésus, eh bien, il appartient à son corps. Et la Bible nous dit que nous sommes membres les uns dans le corps du Christ. Si nous sommes membres du corps du Christ, eh bien, nous avons le devoir de tout faire pour que le corps reste uni. Sommes-nous de ceux qui sèment la zizanie partout, de ceux qui colportent, de ceux qui ont toujours des choses à redire, et hélas, de manière négative sur les autres? Sommes-nous de ceux qui travaillent pour que le corps soit divisé, ou alors c'est le contraire? Je vais demander à ce que chacun s'examine. Ne te précipite pas à louer le Seigneur. Les chérubins étaient dans cette posture d'adoration. C'est bien. Et le Seigneur recherche de vrais adorateurs. Mais nous sommes d'abord le corps du Christ. Et nous devons faire sortir des choses de nos cœurs si nous en avons, des choses négatives. Demandez pardon. Et si tu as des choses dans ton cœur contre ton frère, contre ta sœur, que ce soit ici à l'église, que ce soit dans ta propre famille, eh bien après ici, fais tout mon frère, ma sœur, pour aller te réconcilier avec la personne. Dieu veut accomplir de grandes choses, mais il faut que nos cœurs soient libérés, soient dégagés. Alors nous allons lever nos mains, et chacun, en présence du Seigneur, va demander à Dieu, va lui dire, Seigneur, sonde-moi. Regarde s'il y a des choses dans mon cœur contre un frère, contre une sœur de l'Église, contre un membre de ma famille. Sonde-moi, ô Dieu, et vois s'il y a des barrières que j'ai dressées consciemment ou inconsciemment dans mon cœur et qui m'empêchent de communier véritablement avec mon frère ou avec ma sœur. Sonde-moi, Seigneur, et montre-moi quel est l'état de mon cœur. Et si le Seigneur te montre quelque chose, mon frère, ma sœur, eh bien, demande-lui pardon. C'est là, sur le propitiatoire, là où le sang de l'agneau, de la victime expiatoire, était versé par le souverain sacrificateur, c'est là que je te rencontrerai. Le lieu du pardon, le lieu de la restauration, de la libération du coupable. Et l'agneau, notre agneau a tout accompli à la croix. Tiens-toi devant l'agneau de Dieu et demande pardon. La Bible nous dit qu'il est juste et fidèle pour pardonner nos péchés si nous les lui confessons. Et non seulement il nous accorde le pardon lorsque nous le sollicitons au nom de Jésus-Christ, mais il nous lave, mais il nous purifie aussi de toute iniquité. Et quand nos cœurs seront lavés complètement, nous pourrions alors prier tous ensemble, unis. Nous pourrions alors nous accorder pour pouvoir, mes amis, implorer la grâce de Dieu. Car c'est le Seigneur lui-même qui dit dans Matthieu 18, 19 à 20, « En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans le ciel. »
Si deux s'accordent, ah, il faut qu'il y ait accord, qu'il y ait unité. Voyez-vous? Et il poursuit au verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si deux ou trois. Ici, l'accent est mis non seulement sur le nombre, sur la pluralité, c'est-à-dire minimum deux, mais c'est surtout sur le verbe s'accorder, se convenir. Voyez-vous, convenir avec quelqu'un, c'est venir avec la personne. Ça, c'est le sens étymologique. Comment pouvez-vous venir avec quelqu'un si vous n'êtes pas d'accord avec lui, en accord avec lui? Alors commençons à demander pardon s'il y a des choses dans nos cœurs, si Dieu nous révèle des choses, alléluia. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Parlez au Seigneur. Sentez-vous libre de laisser vos cœurs, mes amis, se pencher devant lui. Sonde-moi, Seigneur, et en même temps aide-moi à avoir ce courage, non seulement de te demander pardon, mais aussi d'aller me réconcilier avec mon frère. Voyez-vous, il m'a fait tort ou je lui ai fait tort. Et là, je demande pardon, alléluia. Continuons à prier. Continuons, mes amis, à demander pardon, à invoquer le sang de Jésus, à demander pardon, Seigneur, pour ceci ou pour cela. Oh, alléluia. Oh, Seigneur, merci. Oh, nous nous tenons devant toi. Toi seul connais l'état de nos cœurs. Toi seul, Seigneur, connais, ô Dieu, ce qu'il y a dans nos cœurs. Et ce matin, nous voulons réaliser, ô Seigneur, que nous sommes coupables. Coupables d'avoir laissé des sentiments négatifs, des sentiments hostiles. D'avoir laissé, ô Dieu, la calomnie envahir nos cœurs et nous empêcher ainsi de communier avec tel ou tel autre frère ou sœur. Et ce matin, tu nous parles. Ce matin, tu nous donnes le pardon. Oh Dieu, pardonne-nous, lave-nous, purifie-nous, Seigneur. Donne-nous la force de nous réconcilier les uns avec les autres. Donne-nous la force, Seigneur, de recevoir le pardon que tu nous donnes maintenant. Nous voulons prier, comme Seigneur, tu le dis dans ta parole, si deux ou trois s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, cela leur sera accordé. Oh, alléluia. Et nous voulons le demander, mais avant, il faut d'abord que nos cœurs soit débarrassé des sentiments négatifs. Oh, merci Jésus. Oh, merci Seigneur pour le pardon que tu accordes. Merci de restaurer le cœur. Tu vois la haine dans le cœur à cause des violences subies autrefois, à cause, Seigneur, de telle ou telle autre personne. Cette haine est née dans nos cœurs. Ces sentiments de jalousie sont nés en nous. S'il te plaît, pardonne-nous ce matin. Libère-nous de ce fardeau. Nous voulons être complètement libres par rapport à ces choses. Et en même temps, donne-nous la force aussi de pardonner à notre tour à ceux qui nous ont fait du mal, à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont blessés. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Le Seigneur est en train de pardonner. Il est fidèle. Ne doute pas, mon frère et ma sœur, quel que soit le problème qu'il y a dans ton cœur. Le sang de Jésus est tout puissant pour te laver, pour te purifier et te débarrasser de ces choses. Lui seul peut te rendre pur. Lui seul peut faire de ton cœur un lieu qui transpire la sainteté, la pureté. Oh, alléluia. Pendant que nous sommes en train de louer, de demander pardon en même temps, de remercier le Seigneur pour le pardon qu'il nous accorde, de libérer nos cœurs de tout fardeau inutile. Eh bien, nos amis vont nous chanter ce chant merveilleux. L'Éternel règne. Oui, il veut régner dans nos cœurs, mais pour cela, il faut ôter toute impureté, toute injustice, toute iniquité, tout manque de pardon, toute haine, dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Louons le Seigneur, mes amis, ne nous laissons pas distraire.
Pour la durée des temps, nous t'adorons. Pour la durée des temps, nous t'étalons. Par tes voix, et digne de louange, éternel, tu as fait les
pour pardonner, puissant pour nous délivrer.
Si deux s'accordent pour demander quelque chose à mon Père, cela leur sera accordé. Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis parmi eux. Donc l'accent est mis sur le verbe s'accorder. Maintenant que nous venons de nous libérer de tel ou tel autre fardeau, maintenant que nous réalisons que nous sommes un corps, je voudrais que nous prions pour les travaux. Je voudrais que nous prions pour l'avancement des travaux, comme vous l'avez vu, la phase de démolition a déjà commencé ici derrière. Eh bien, que le Seigneur puisse intervenir, qu'il puisse nous donner tous les moyens dont nous avons besoin pour concrétiser cette vision d'un nouveau temple sur ce site. Nous allons prier pour que, à chaque fois que nous nous retrouvons ici à la borne, que le Seigneur envoie son esprit pour nous rencontrer dans nos besoins, quels qu'ils soient. Et s'il y a des familles ce matin, je voudrais que les familles, si vous êtes assis les uns à côté des autres, que vous vous teniez par la main, que vous priez peut-être pour un besoin que vous avez au niveau de votre famille. Car si deux ou trois s'accordent, Dieu entendra la prière. Prions tous ensemble, alléluia. Oh merci. Oh merci Seigneur. Oh merci Jésus. Merci pour tout. Tu es celui qui entend la prière. C'est toi qui nous as laissé cette promesse. Que si deux, Seigneur, ou trois s'accordent, Seigneur, pour demander quelque chose à mon Père, en mon nom, cela leur sera accordé. Tu vois, Seigneur, nous nous tenons devant toi comme membres de la même famille, ta famille à toi, comme membres de ton corps, pour implorer ta grâce sur notre projet de construction, que tu nous donnes les moyens pour pouvoir concrétiser cette vision, que tu nous donnes les moyens pour ériger en ces lieux un temple pour ta gloire. Seigneur, nous te prions également pour que tu nous aides à être une église remplie de sainteté, remplie de pureté, remplie de justice, remplie de véritable amour, que nous vivions la Pentecôte à chaque fois que nous nous réunissons, que ton esprit agisse, que les dons spirituels se répandent, que des âmes soient franchies, que des âmes soient libérées, que ceux qui ne sont pas mariés puissent trouver l'âme sœur, qu'ils se marient, que ceux qui n'ont pas du travail, nous prions pour que tu leur en donnes, au nom de Jésus-Christ, que des portes s'ouvrent, que des portes s'ouvrent, que des chaînes tombent. Merci. Merci Seigneur, que celui qui entend la prière et qui l'exauce, tout ce que tu dis est vrai. Non seulement tu es celui qui promet, mais tu es également celui qui accomplit toute promesse. Et nous croyons que tu as entendu nos prières, puisque nous nous sommes accordés, puisque Seigneur, la main dans la main, d'une seule âme, nous avons fait monter vers toi nos préoccupations, nos besoins, nos attentes. Seigneur, merci. Merci d'agir maintenant. Merci pour tout. Bénis maintenant ce moment, Seigneur, dédié aux offrandes.